Atmosphère, aventure de vinyle, basse culture, basta, big sexy band.
Les gens de panique.
Bis Art Shaker.
Eric Georg Erebaut et Maurizio.
Radio Panique, vous êtes sur Bizarre Checker. Ce soir, un Bizarre Checker avec un invité. Nous sommes avec AKM et... plus de détails un peu plus tard, alors c'est assez expérimental, je ne m'entends pas parler, donc la présentation risque d'être comique. Musique de fond actuellement, Suzanne Brokesch. Alors, plus précisément, AKM suit sur Cut Index et... et Antimatière. Voilà, on y est.
I was injected with testosterone for 5 months, and I didn't react very well to that. And so they quickly reversed their decision and decided to do feminizing puberty, a Mac and Doe vaginoplasty.
Bonne nuit, merci à AKM et on se retrouve à la semaine prochaine. Bonne nuit.
Ragoût de panique.
Chapitre 64. De l'art et des artistes en radio.
J'aurais pas de mal à me situer en tant qu'artiste ou en tant qu'intellectuel, parce qu'on passe son temps à me dire que bon gré, malgré, ben, quel beau lapsus, malgré le fait que tout ça est très rustre, je fais quand même des trucs assez intello. Je pourrais, mais après, quand je porte un regard extérieur vers ce qu'on appelle le monde des artistes ou le monde intellectuel, j'ai un certain effroi parce que il y a, en général, une absence d'authenticité qui me chiffonne terriblement. Et ça, c'est important, parce qu'à défaut d'être des réussites artistiques ou d'avoir réussi à faire passer certains contenus et certains engagements et certaines visions artistiques, musicales dans mes émissions, j'espère au moins qu'on en ressent l'authenticité. Et c'est dangereux, en fait. Quand je suis rentré sur Radio Panique en 1987, j'étais encore un adolescent, maintenant j'ai 33 ans et je me suis rendu compte que je suis beaucoup trop imbriqué dans mes émissions. C'est beaucoup trop proche de ma peau et ça me rend plus susceptible. Ça me rend plus susceptible, plus sensible et ça m'a poussé à me cacher. En fait, ce que j'offre dans mes émissions, depuis Das Grauen jusqu'aux Nouvelles Hybrides et maintenant Bizarre Checker, c'est un peu, ça ressemble un peu à mon personnage, qui est un personnage expansif, boulimique, qui fait une véritable boulimie de consommation artistique d'œuvres. Je veux dire, je suis quelqu'un qui tombe malade quand il a une impossibilité, même courte, de ne plus avoir quelque chose de nouveau à lire, de ne plus avoir quelque chose de nouveau à écouter. Et en fait, les émissions de radio que je fais depuis Das Grauen, ça a toujours été le principe de base de tout ce que je mâche, je le régurgite, mais je le régurgite sous une forme unique. Après, à tout un chacun de saisir les composantes qui lui parlent et qui ne lui parlent pas. Et Das Grauen, c'était le début de ça. C'était d'une rare inconstance musicale, d'une rare inconstance littéraire. On ne pouvait pas dire qu'il y avait une ligne musicale, une ligne littéraire. Et je ne me suis jamais forcé à ça.
Est-ce que tu as beaucoup de feedback, comme on dit, pour tes émissions ?
Oui, beaucoup. Beaucoup, ça a beaucoup de bons côtés et un qui n'est pas un mauvais côté mais qui est un tout petit peu énervant, donc on va le vider tout de suite, c'est que j'ai l'impression, en tout cas à Bruxelles, que mon public s'est fait une bonne fois pour toutes au bout des 14 ans de radio que j'ai derrière moi et qu'en fait il varie pas beaucoup. De temps en temps, il y a une personne, etc. Mais donc c'est un petit côté secte. Et ça a aussi un petit côté, comment dire, je me garde bien de cet aspect de snobisme, mais je redoute qu'il puisse apparaître parfois sans prévenir. Tu sais, je ne l'ai jamais vécu comme ça, hein. Tu peux me jeter une tarte à la crème dans la tronche si tu en as envie, mais quand j'ai commencé à faire des émissions comme Das Grauen ou Les Nouvelles Hybrides ou Alléréo Confiteor, j'étais persuadé que ça allait intéresser tout le monde. Pas une sorte de minorité de zozocosmique, élitiste ou bizarroïde. Moi, j'étais persuadé qu'une dramatique radio, que d'entendre une voix qui vous raconte une histoire avec un décor sonore, c'était quelque chose de très accessible et dans l'ordre naturel des choses. Pas que c'était une espèce en voie de disparition et qu'en plus je l'exécutais d'une telle manière que ça risquait encore plus d'en précipiter la disparition. En fait, figure-toi que je me suis fait certains de mes meilleurs amis à travers cette prise de contact de gens qui écoutaient l'émission et qui éprouvaient le besoin, après avoir pensé, capté telle ou telle idée, de venir en parler et de savoir si en effet on est sur la même longueur d'onde. Et mine de rien, à défaut d'avoir une reconnaissance publique incroyable, aujourd'hui, je joue dans plusieurs groupes, je fais plus ou moins partie définitivement d'une troupe un peu alternative de théâtre, etc. Et tout mon environnement, pas professionnel, parce qu'il est quasiment pas professionnel, mais d'action culturelle et de production, eh bien, ce sont, à de rares exceptions près, ce sont des gens que j'ai rencontrés via via mes émissions.
Courant d'air, degré zéro, diabolique poubelle, dit jacking zone.
Les gens de panique.
Dream Machine. Laurence Brognier.
Et là, oui, il y a eu un gros break à nouveau, parce que là, je devais quand même à nouveau un peu travailler et m'occuper de d'autres choses. Donc, et puis, j'avais aussi un peu épuisé la formule à corps perdu, quoi. Hein. Donc, j'avais envie d'autres choses. Et disons que Dream Machine, que je fais en collaboration avec mon ami, quoi, est une formule plus ouverte, quoi. C'est un peu un mix, je dirais, entre une émission classique et une émission... à l'accord perdu thématique, quoi. Parce qu'on choisit, on choisit quand même souvent d'organiser notre programmation autour d'un thème, soit un auteur ou un genre musical. Mais parfois aussi, on se donne la liberté de passer ce qu'on aime bien comme musique, quoi. Mais là, c'est ça, la formule est beaucoup plus libre. On invite des gens, etc. Donc, je dirais, voilà, Dream Machine est aussi dans l'évolution logique des choses par rapport à ce que j'ai fait avant. Et peut-être que maintenant, je vais passer la main à quelqu'un d'autre.
Tu n'as pas fait l'analyse de ta manière intuitive de...
Bah non, parce que comme elle est intuitive, et bon, je passe déjà mon temps à analyser des choses dans mon boulot, donc je n'ai pas nécessairement envie de faire... C'est pour ça que je n'ai jamais voulu me professionnaliser sur ça, ni conceptualiser, quoi. Parce que bon, ça, je le fais à longueur de journée. Donc pour moi, ça va rester quelque chose... D'ailleurs, après 10 ans, plus ou moins de pratique, je trouve ça encore chouette de pouvoir le concevoir ainsi, quoi, comme quelque chose d'assez ludique et tout ça. Et bon, c'est pour ça que ça a été les projets radio, donc mis à part l'émission régulière, ça a toujours été aussi des bouffées d'air frais pour moi, des découvertes. Oui, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris en faisant ça. Ben, je pense que c'est ce que j'ai appris, je l'ai aussi utilisé dans d'autres domaines de ma vie, et c'est... Tout est lié, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours vécu ça comme quelque chose de... Enfin, très, très lié à ma vie, à l'évolution, à mon évolution, quoi. Donc voilà, quoi.
Le Var et la Ti,
Définis un peu le radio art pour toi, par rapport aux formes d'art radiophonique.
Ça, c'est assez simple. C'est à la fois simple et compliqué, comme dirait le capitaine Haddock. La radio, c'est un média. C'est aussi un médium. Et donc, l'utilisation... Quand un peintre peint son tableau, il utilise du médium à peindre. Eh bien, on peut utiliser la radio comme médium. Donc, c'est l'utilisation de la radio pour faire de l'art, pour faire de quelque chose de créatif.
Pas nécessairement radiophonique, alors.
Ouais, ça peut être sonore, ça peut s'entendre aussi d'une autre façon. Est-ce que de l'audio-art qu'on passe en radio devient du radio-art, ou le contraire? Moi, je laisse aux philosophes le soin de dénouer ce problème-là.
Le radio-art. Oui. Okay. Le radio art. Pour moi, à l'époque, c'était des expérimentations sonores, en fait. Un peu comme on pouvait entendre souvent sur ZAB, qui est une radio, qui est la radio de Guy Stukens. Ce n'est plus vraiment un terme intéressant pour moi, je trouve. Dans le sens que l'approche créative de faire la radio, quelque part, ça peut se trouver dans tout et n'importe quoi, dans un documentaire, dans une émission musicale, et dans une radio comme radio. Quelque part, on devrait même dire que ça devrait se trouver partout. Ça ne devrait pas du tout être... une catégorie à part, en fait, la radio-création. Ça devrait être quelque chose qui te retrouve dans toutes les émissions, dans tout le temps, quelque part. Parce que l'opposé de la radio-création, c'est la radio, quelque part, ennuyante, d'avoir une approche qui n'est pas créative, donc quelque part, donc un peu ennuyante, un peu... Allez, qui t'endorme. Et je crois que tout le monde est intéressé par les choses créatives, même un public qui écoute Radio Contact, je veux dire. Je crois que pour être touché par une approche créative, pas forcément expérimentale, parce que là, ils vont sûrement pas accrocher, mais ça ne doit pas forcément être expérimental, la création. En plus, c'est parfois même trop facile de faire des trucs expérimentaux, parce que pour beaucoup de gens, faire des trucs expérimentaux, ça, c'est une excuse pour faire des trucs qui ressemblent à rien du tout.
Au début, j'étais bien candide, mais bon, même à Radio Panique aujourd'hui, ce n'est pas par hasard si certaines personnes considèrent que mon émission, l'émission que je fais avec DJ Atom en collaboration sur Radio Panique, est soi-disant l'émission la plus expérimentale de Radio Panique. Eh bien, il semblerait que depuis 20 ans, je me sois leurré à errer partout où il était de bon ton de dire qu'on était dans une action ou dans un mode d'expression qui soit, entre guillemets, expérimental. Je peux te garantir que je ne suis pas toujours sûr de savoir ce que cela signifie, le mot expérimental. En fait, plus je découvre de choses qui se veulent expérimentales, moins j'ai l'impression de saisir la signification exacte de expérimentation. Alors je préfère me raccrocher à sincérité, liberté. Je suis un peu baba cool en fait. Mais je crois que ce qui serait honnête, c'est de dire que toutes les émissions de radio que j'ai faites après les deux versions de Machigai ont à chaque fois été des laboratoires où je me suis cherché.
Alors, il faut signaler aussi que tu as toujours travaillé sans ingénieur du son. Tu as assumé à la fois la technique, le concept et la réalisation en direct de tes émissions.
Oui, toujours en direct, et je le fais encore maintenant. Ah mon Dieu, Dieu sait que je n'ai absolument rien contre les ingénieurs du son, mais dans mon cas précis, par rapport à la manière dont je le ressens, utiliser un ingénieur du son équivaudrait plus ou moins à me considérer comme peintre et à demander à quelqu'un d'autre de peindre les tableaux dont j'aurais l'idée après les lui avoir décrits. Ça serait exactement la même chose, et je trouverais ça c'est absurde. Je préfère me planter, continuer à faire des monstruosités techniques qui, de toute façon, pour moi, vont toujours déboucher sur des idées sonores qu'un jour je vais réutiliser ou assumer, que de déléguer les choses, même les voix, mine de rien. C'est vrai que pour des... soyons honnêtes, pour quelqu'un qui fait de la dramatique sonore et qui utilise toujours des textes et la voix, sur la 600 d'émissions que j'ai déjà dû faire, et à mon avis on en est à peu près là, je veux dire, il doit y en avoir pas un sixième où j'ai invité des acteurs, des gens pour faire d'autres voix. Même là-dessus, j'ai continué à expérimenter. J'étais plutôt en train de parler avec un doigt dans la bouche ou en m'enroulant la tête dans du papier pour voir si ça allait faire un effet au micro, plutôt que... Mais oui, d'une face, c'est vrai, j'ai toujours fonctionné d'une manière très autarcique. C'est vrai que j'ai fonctionné de plus en plus par moi-même, ce qui ne m'empêche pas de beaucoup collaborer, mais en dehors de mes émissions de radio. Et justement, là, les émissions de radio continuent à servir de laboratoire permanent, et parfois, après, je prends certains de mes trouvailles, et quand il s'agit d'enregistrer des disques ou de faire de la musique à côté, ce que je cherche, ça se passe en direct aussi dans les émissions de radio que je fais.
Est-ce que tu t'imagines un jour faire tes réalisations sur un ordinateur ?
Je travaille déjà sur ordinateur, mais jamais pour la radio. Pour la musique, je le fais souvent. Pour la radio, je n'en vois pas l'utilité. Pour la radio, j'ai vraiment délibérément arrêté mon choix sur certaines techniques précises et qui aujourd'hui ont tendance à être considérées comme archaïques. Et à me dire qu'avec mon incompétence technique crasse, je n'ai de toute façon pas encore fini de les explorer. Je suis persuadé que j'ai encore beaucoup de choses à découvrir d'un Revox. Je ne suis pas sûr que le Revox soit d'accord à propos de tout ce que je pense avoir encore à y découvrir, mais ça c'est un autre débat, quoi. Je sais bien que j'utilise souvent les machines à contrario ou pas comme il faudrait, mais peu importe. Je veux dire, il faut creuser, toujours essayer d'exprimer l'idée fondamentale que tu as exprimée. De toute façon, on ne fait rien. Je veux dire, on ne peut pas emprunter d'autres cerveaux pour tenter d'explorer d'autres voies que la sienne. La meilleure chose qu'on peut faire, chacun, c'est trouver un petit peu, définir ce qu'on a à dire et essayer de le recommencer à chaque fois en essayant un jour d'arriver à une perfection qui est un but tout à fait abstrait parce que cette perfection est impossible et le simple fait qu'elle soit impossible, ça te pousse à toujours recommencer avec parfois des degrés de réussite et des degrés de satisfaction. Moi, j'aime bien faire des émissions très longues et qui sont des sortes de laboratoires. Après, je les réécoute systématiquement et en général, dans une émission de 2 heures, il y a 2 passages de 10 à 5 minutes hors des pauses musicales qui m'intéressent vraiment et que j'étire et que je développe en long pour faire les 2 heures suivantes qui contiendront à leur tour 10 à 5 minutes qui me parlent plus que le reste et que je vais étirer pour faire la suivante. Donc, un peu comme le disait Fernando Pessoa, je suis à chaque fois mon propre trésor perdu et à chaque fois je dois repartir sur l'île aux pirates pour le retrouver, le déterrer et m'en réémerveiller à nouveau, quoi. Et à chaque fois, après, pour les acquis, je ne suis sur rien. Ça n'est que approcher d'un idéal que j'ai, mais qui de toute façon ne peut pas être atteint. Parce que le rêve ne se traduit pas à... Je veux dire, beaucoup d'œuvres d'art sont des reflets de nos désirs, de nos rêves, de nos envies, de nos angoisses, mais n'en sont que des reflets.
Et que personne ne l'oublie.
Le problème de l'autonomie d'un art radiophonique pourra se poser éternellement en théorie. Dans la pratique, c'est un fait. Il existe des hommes dont la fonction est de créer ou de participer à la création des œuvres radiophoniques.
Roger Pradalier, L'art radiophonique, page 6.